On ne se parle plus, on ne discute plus.
Le problème est trop grave pour qu'on perde du temps à ce genre de querelle un petit peu stérile.
Une gare.
Vous diriez que depuis 30 ans, dans le monde, il y a un
dérèglement.
Climat.
C'est un lieu où on croise.
Oui ou non?
Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien.
Ça fait 50 ans que ça dure.
Les prévisions millénaristes, c'est qu'à...
Je n'ai pas fini.
C'est pas parce que je suis un homme blanc hétéro cisgenre que je vis ma best life et que tout va bien.
Moi, alors, je suis wokiste, mon va très bien.
Les inégalités n'ont pas seulement... Elles se sont multipliées.
On ne se parle plus, on ne discute plus, on ne se dispute
oui.
plus.
Non.
Grand Écart, le podcast qui donne envie de parler des sujets qui fâchent. Ça, c'est le bruit du livreur de journaux à 7h du matin chez mes parents. Ça, c'est moi avec mon bol de céréales, en train de décrypter la une de Libération. Vous savez, c'est une si singulière avec des photos en pleine page et les titres courts et percutants. Et ça, c'est moi, 10 minutes plus tard, en train de lire ma partie préférée, le portrait en 4e de couverture. Tout ça, c'était pendant mon enfance.
Le journal du petit déjeuner. C'est un luxe paradoxal, communier avec le monde, dans la paix la plus parfaite, dans l'arôme du café. Sur le journal, il y a surtout des horreurs, des guerres, des accidents. Entendre les mêmes informations à la radio, ce serait déjà se précipiter dans le stress des phrases martelées à contre-point. Avec le journal, c'est tout le contraire. On le déploie tant bien que mal sur la table de la cuisine, entre le grille-pain et le beurrier. On enregistre vaguement la violence du siècle, mais elle sent la confiture de groseille, le chocolat et le pain grillé.
Vous l'avez peut-être reconnu, c'était un extrait de la première gorgée de bière de Philippe Delerme.
J'ai grandi en trouvant chaque matin le journal posé sur la table de la cuisine au moment du petit déjeuner. J'ai grandi en lisant le journal et en écoutant la radio. Alors, si Libé ne m'a pas suivi partout, France Inter m'a accompagné dans toutes les étapes de ma vie. Quand j'habitais à Londres, il y a déjà 10 ans, j'avais 1 heure de décalage horaire avec la France, ce qui fait que j'arrivais tout juste pour le journal de 8h alors qu'il était 7h chez moi.
France Inter.
Ça rythmait ma routine matinale.
Le 7-9. Une espèce.
Il est 7h. À 7h, je prenais mon petit déjeuner avec Patrick Cohen. À 7h20, j'étais sous la douche avec Stéphane Paoli. Flash de 7h30, en train de m'habiller. Et puis à 7h45, j'étais dans la rue pour aller prendre le bus en écoutant Claude Askolovitch. À cette époque, je connaissais encore les noms de tous les ministres. Je suivais l'actualité de près, de très près. Et puis, depuis 1 an... Le matin, chez moi, c'est très calme. Il y a des bruits de bol et des couverts, mais plus de radio. Je crois que c'est une matinale avec Marine Le Pen en invité qui a fini par m'achever. Je ne supportais plus le flux d'informations que je n'avais pas le temps d'intégrer dès le réveil. Je ne supportais pas les phrases toutes faites et l'hypocrisie des politiques. Et parfois même, je ne supportais plus les journalistes. Alors à force de ronchonner toute seule dans mon coin en me brossant les dents, je me suis dit qu'il fallait que ça s'arrête. J'ai décidé de tester les matins sans la radio. D'écouter le calme et le silence. Et c'est pas mal, puisque ça a laissé plus de place pour faire d'autres choses, comme des étirements ou un semblant de méditation. Parfois, je retente l'expérience de la radio le matin, mais juste un matin. J'ai plus envie de m'y remettre au quotidien. Mais voilà, depuis quelques mois, plusieurs amis m'ont partagé avoir aussi arrêté les infos. Des amis qui, comme moi, ont grandi avec ça. Nous sommes peut-être une minorité, mais je me demande ce que ça veut dire. Et alors, lors d'un week-end entre amis, j'ai posé la question à mon amie Oriane.
Effectivement, j'ai coupé pendant un temps les informations et ensuite après, ça me faisait culpabiliser. Parce que je me suis dit, en fait, tu peux pas vivre en faisant le petit singe qui ferme les yeux. C'est aussi ton devoir de savoir ce qui se passe dans le monde. On va dire que j'ai pas énormément de moments dans ma journée où je peux m'informer puisque j'ai pas de télé et que je prends pas les transports en commun. Je suis à vélo. Donc en fait, le seul moment où je peux m'informer vraiment, c'est en écoutant la radio le matin. Ce que je fais, mais par contre, je le fais de manière très succincte pour savoir quand même ce qui se passe dans le monde, parce que, encore une fois, je pense que c'est le devoir que j'ai de m'informer. En revanche, sur ces dernières semaines, moi, j'ai refusé catégoriquement de regarder les images, parce que je pense que ça va rien changer dans ma perception de comprendre ce qui se passe. Et peut-être que ça fera écho à certaines personnes justement pour vraiment que ça résonne en eux et que ça les incite en fait à faire bouger les choses. Moi de mon côté, c'est quelque chose que je supporte pas, l'horreur en image. Donc pour le coup, par rapport à ça, c'est quelque chose qui était vraiment clair, que je voulais pas du tout voir d'image.
Et juste par rapport à ce qu'on disait sur le fait d'arrêter France Inter.
Ouais. C'est vrai que je trouve que on a, enfin c'est pour moi c'est la radio de référence parce que c'est la radio publique avec des excellents intervenants, mais c'est vrai que c'est extrêmement anxiogène de commencer sa journée comme ça. Je l'avais de mon réveil à mon arrivée au boulot, et c'est vrai que c'est alors c'est leur devoir d'information, mais c'est que des choses extrêmement négatives, et il n'y a pas du tout de lueur d'espoir dans la manière de présenter. Alors c'est bien, c'est pas bien, je sais pas, mais en tout cas c'est vrai que en fait ça. Au-delà du devoir d'information qu'on a en tant que jeune citoyen, c'est aussi, malheureusement, parfois, il faut essayer de regarder, de se regarder soi et de se dire, en fait, est-ce que vraiment ça m'apporte des choses, en fait, de me faire, entre guillemets, attaquer le cerveau dès le matin et de recevoir que du négatif. Et en fait, quelle place ça prend dans ma vie, et tu vois, à quel moment est-ce que je mets le frein, et à quel moment est-ce que c'est vraiment utile, en fait, de recevoir toute cette dose d'informations hyper négatives dès le matin. Et du coup, je me suis plus redirigée vers des podcasts au moment où je ne devrais pas écouter la radio, c'est-à-dire sur mon vélo. Et du coup, j'écoute des podcasts qui n'ont aucun lien avec nécessairement avec l'actualité, mais qui sont plus des histoires qu'on me raconte pour essayer de remettre un peu de l'humain dans tout ça, et voilà, d'écouter des histoires.
Pourquoi en sommes-nous arrivés là, à devoir débrancher nos postes de radio et nos journaux, à fuir les notifications du monde comme la peste, de peur que ce soit encore une mauvaise nouvelle, à ne plus ouvrir Instagram de crainte d'un nouveau partage d'horreur? Je me demande où cela va s'arrêter. Est-ce qu'on va couper complètement et ne plus s'informer du tout? Quelle marge de manœuvre avons-nous pour paramétrer nos systèmes d'information? Et comment continuer de s'informer autrement d'une manière qui nous convienne vraiment?
Ça m'inquiète quand même qu'on se coupe des news. J'aime me renseigner sur ce qui a lieu ailleurs dans le monde. Et dernièrement, je me suis rendu compte que dans Le Monde, je finis par lire uniquement les articles lifestyle, ce qui est quand même un peu bizarre. Alors je me suis demandé, au départ, pourquoi est-ce qu'on se renseigne et on suit les informations? Qu'est-ce qu'on va y chercher? D'ailleurs, est-ce qu'on ne fait que suivre les informations? Est-ce qu'elles ne résonnent pas aussi en nous? Suivre les informations, c'est chercher à se relier aux autres, à apprendre de leur réalité pour se sentir faire monde ensemble. Un peu comme une forme de transcendance. En lisant des articles, j'ai la volonté de me connecter au monde, à ce qui a lieu là où je ne suis pas. L'idée aussi de comprendre davantage ou autrement ce qui a lieu là où je suis. Bon, ça me donne aussi un sujet de discussion avec les personnes que je fréquente. C'est parfois une forme de réassurance sur des questions de subjectivité, identitaire ou existentielle. Ce que j'entends à la radio ou à la télévision peut m'ouvrir une fenêtre vers des personnes, ailleurs, qui me font sentir que je ne suis pas seule. La porte s'ouvre sur des individus qui partagent mes questionnements, dont je peux apprendre.
C'est parti, les 21h. Une, deux,
c'est cool.
Bon, moi, je pense qu'un apprentissage que j'ai tenté de faire à la radio, c'est celui du béaba de la sexualité en écoutant.
Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock.
Alors, je suis pas sûre que c'était la meilleure des éducations. Les informations peuvent aussi nous donner envie d'agir. C'est en apprenant à la radio qu'il y avait eu le matin même l'énième démantèlement d'un camp rassemblant des personnes exilées que j'ai décidé de m'inscrire dans une association. Ce lien entre action et information ressort dans ce que nous a partagé Anna.
C'est marrant, moi c'est totalement l'inverse, tu vois, sur l'actualité matinale. J'ai vraiment l'habitude, le premier truc que je fais en me réveillant le matin, c'est d'utiliser la lumière bleue du téléphone pour m'aider à me réveiller, il faut bien que ce soit utile à un moment donné. Et du coup, je regarde les infos, j'ouvre Le Monde, j'ouvre Libé, et vraiment je lis les articles. Et c'est le premier truc que je fais, et après j'enchaîne avec la radio, effectivement, qui, pendant que je me prépare, etc., et puis après pendant que je vais au boulot. Et pour le coup, en fait, c'est un espace le matin, moi, qui me fait beaucoup de bien. Parce que j'entends tout ça et en fait, ça m'énergise énormément. Ça peut paraître un peu bizarre, mais ça me donne envie de me battre, en fait. Et du coup, le matin, j'utilise ça vraiment comme une source d'énergie, de me dire, ok, tu sais pourquoi tu fais les choses, tu sais pourquoi tu vas au taf, tu sais pourquoi tu te bats, tu sais pourquoi tu milites, et ça me donne une énergie absolument dingue. Mais il faut vraiment que ce soit dans un cadre particulier. Donc c'est le matin, en semaine. Par contre, le matin, le week-end, je trouve ça extrêmement anxiogène. Donc... j'évite en fait plutôt l'actualité le week-end, où je vais être beaucoup plus concentrée effectivement sur des podcasts de fond, d'autres sujets, explorer d'autres choses, des choses sont les plus positives, etc. Mais pour le coup, ouais, c'est vraiment mon fuel, moi, de matin, c'est ouais, lire les news et puis écouter la radio.
Moi, je voudrais juste rebondir sur un truc. Quand vous parliez du fait que ça vous donne du boost et tout, de fait de sentir indigné, je pensais aussi à votre travail et à toutes les deux. Moi, en fait, justement, ça a tendance à me déprimer parce que quand j'arrive à mon boulot, je me dis, en fait, moi, mon boulot, il va pas forcément dans le bon sens. J'ai pas un impact au travail qui pour faire changer les choses. Et du coup, ça me remet un peu plus le nez dans le voilà. Et du coup, je pense que c'est hyper cool quand t'as un travail justement qui te permet d'avoir un vrai impact et te donner du fuel. Ce qui, moi, malheureusement, je pense que ça, aujourd'hui, avec le taf que j'ai, en tout cas à l'heure actuelle, ça va pas être le cas, donc ça va pas me donner les bons trucs, tu vois. Ça va justement me dire, purée, il y a des trucs beaucoup plus importants aujourd'hui qui se jouent dans le monde. Et moi, j'arrive derrière mon petit ordi, avec mon petit bureau, avec mon petit taf, où clairement, ça va pas changer la face du monde.
En fonction du métier que l'on fait et notre capacité d'agir en lien avec ce qui se passe dans le monde au quotidien, notre rapport aux informations changerait donc. Enfin, j'ai le sentiment que notre rapport aux infos est lié à notre rapport à ce qui constitue un événement. Comme si on avait une crainte de passer à côté d'un événement qui bousculerait nos vies. Suivre les infos, c'est donc s'assurer qu'on sera au courant et que l'on pourra se montrer à la hauteur de ce qui se passe. Cela me fait penser au poète Joe Bousquet. Il a été blessé en 1918 et a passé la suite de sa vie, alors qu'une partie de son corps était paralysée, on parle quand même de plus de 30 ans, dans une chambre. Il a théorisé l'idée que l'événement atteint chacun de nous et que l'important est d'en être digne. Théorie qui a d'ailleurs ensuite inspiré Deleuze. Il s'agit d'être digne de ce qui nous arrive, en voulant qu'il se passe des événements, en cherchant à devenir le fils de ses propres événements et par là renaître, se refaire une naissance, rompre avec sa naissance de chair. Alors on est d'accord, c'est peut-être un petit peu exagéré de se dire qu'on va se refaire une naissance au travers du 7-9 de France Inter. Mais je suis convaincue que notre rapport aux événements y est lié. On a donc pas mal de bonnes raisons de suivre les médias, dont certaines sont aussi des madeleines de Proust de notre enfance. Depuis, le système médiatique a évolué, avec notamment une concentration des médias et l'apparition des réseaux sociaux. Deux choses qui ont pas mal changé notre rapport aux infos.
Alors jusqu'ici, on a plutôt fait référence au fait de s'informer via des médias traditionnels comme la radio, la presse ou la télévision. Et je me souviens quand j'étais étudiante en communication au CELSA, j'ai souvenir d'un cours qui m'avait particulièrement marqué, qui était intitulé « Panorama des systèmes médiatiques ». Autrement dit, le sujet était de comprendre les dynamiques économiques qui régissent les médias et ainsi la diffusion d'idées et d'idéologies qui soient propres aux propriétaires de chaque média. D'ailleurs, pour vous donner un petit aperçu du tableau, on vous propose un quiz.
Et top, j'ai été interrogé par la commission d'enquête du Sénat sur la concentration dans les médias. Je suis la première fortune de France, à la tête de LVMH, mais aussi des Échos, du Parisien ou encore de Radio Classique. Je me vois comme un simple mécène de la presse et ne vois aucun risque à concentrer tant de médias. Je suis Bernard Arnault, et oui. Et top, je suis le propriétaire de BFM TV, RMC, Libération Express, je suis propriétaire d'Altis Media Group. J'ai été fragilisé pendant l'été 2023 par un scandale et mon bras droit mis en examen dans le cadre d'une enquête pour corruption et blanchiment. Je suis Patrick Drahi, et oui. Top, je suis la 14e fortune de France, je suis l'heureux propriétaire des groupes Canal+, Prisma et Vivendi. C'est moi qui ai mis sur orbite le polémique Éric Zemmour qui aurait pu être candidat à la présidentielle. Ah oui, je suis Martin Bolloré.
Donc le premier changement, c'est que les médias principaux sont en grande partie détenus par les mêmes personnes, mettant à risque la liberté et l'indépendance de la presse. CF, la dernière crise en date, celle du journal du dimanche. Mais surtout, deuxième gros changement aujourd'hui, c'est que la source principale d'information ne se fait plus uniquement via les médias traditionnels. Selon une étude réalisée par Ipsos en 2022, 73% des 16-30 ans utilisent un réseau social ou un média en ligne pour s'informer quotidiennement. Cela pose évidemment la question de la désinformation, le propre du journalisme étant bien sûr de vérifier l'information avant de la publier. Mais cela interroge aussi sur les bulles Internet dans lesquelles nous tombons. Une fois que l'algorithme a compris notre centre d'intérêt du moment, il nous pousse du contenu lié à cela, nous donnant l'impression que tout le monde pense comme nous. Et cela entretient un biais cognitif que l'on adore, le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est la tendance instinctive de l'esprit humain à rechercher en priorité les informations qui confirment sa manière de penser et à négliger tout ce qui pourrait la remettre en cause. Forcément, à l'inverse, quand on croise un contenu apportant une autre perspective, on s'offusque et on se crie dessus. L'algorithme valorise les contenus clivants qui vont générer un maximum de commentaires ou de likes. Les contenus sont pensés en fait en concept et en titre. C'est d'ailleurs ce que nous a appris notre grand mentor influence de ce podcast, nommé Simsto, aka Déborah M. Labagarre pour son nom de scène. C'est cela qui nous enfonce et nous enferme dans nos bulles. Le risque, c'est d'ailleurs de tomber dans un chaos épistémique. Oui, je suis assez fière de ce terme que j'ai appris il y a quelques temps en écoutant un podcast édité par Larger Us avec le directeur de Friends of the Earth des UK. Ce terme un peu sophistiqué signifie que ce serait le point où nous ne partagerions plus de connaissances communes et donc ne pourrions plus du tout échanger. Ça rejoint d'ailleurs ce que disait mon ami Quentin en m'expliquant qu'Instagram était le dernier endroit où il s'informait, car pour lui, les gens n'avaient pas une volonté de s'informer, mais une volonté d'avoir simplement raison. Et puis, le truc qui me tracasse par rapport aux infos sur les réseaux sociaux, eh ben, c'est tout simplement mon addiction. Le pire, c'est quand mon doigt va directement cliquer sur Instagram sans que je n'en ai conscientisé le besoin ou l'envie d'y aller. Je clique sur l'app en mode pilote automatique et j'en oublie d'aller vider de la vaisselle, répondre au message d'un ami ou juste lire ce livre que j'ai trop envie de lire depuis un certain temps et qui traîne sur ma table de chevet.
Et ce n'est pas qu'un ressenti par rapport à ton portable. Caroline Sauvageol-Rialan, autrice de l'essai « Infobésité, comprendre et maîtriser la déferlante d'informations », nous dit dans un article du Monde, qu'on vous met en référence, que l'humanité a produit plus d'informations ces 35 dernières années qu'en 2000 ans d'histoire, et que ce volume double tous les 4 ans. Pas étonnant alors que d'après une étude publiée par la Fondation Jean Jaurès en septembre 2022, 53% des Français déclarent souffrir de fatigue informationnelle.
Oui, et je me demande si les 47% restants, ce ne sont finalement pas ceux qui ne s'informent plus. Personnellement, pour ne pas me sentir esclave de l'attention, j'essaye de sauvegarder les contenus qui m'intéressent pour les regarder à un moment adéquat où je fais vraiment le choix d'être là. En gros, je passe par là, je croise un contenu intéressant en ligne, je fais ma veille et à un moment dans la semaine que j'aurai choisi, je lis et consomme ces différents contenus en prenant le temps de réfléchir. Et en plus de ma petite veille que je traite plus tard, je m'offre maintenant des cures de détox. Donc régulièrement, je vire Instagram pendant quelques jours, surtout pendant les week-ends, pour réellement déconnecter de la vie en ligne et être présente dans la vie physique.
Ces nouveaux usages participent à la sensation de vivre dans un monde où le temps s'est accéléré. L'accélération du temps, ça a été mis en avant par le philosophe Hartmut Rosa. Ça serait l'accélération du temps dans notre monde moderne qui fait que nous avons l'impression perpétuelle de manquer de temps, alors même qu'on est censé avoir de plus en plus d'outils ou de techniques censés nous faciliter la vie et faire les choses à notre place. Comme tu l'as souligné, Solène, les nouvelles technologies exigent en réalité du temps supplémentaire. Elles accroissent le rythme de la vie. Et tout ça à vitesse grand V, puisque comme l'écrit Rosa, il s'est écoulé 38 ans entre l'invention du poste de radio à la fin du 19e siècle et sa diffusion à 50 millions d'appareils, tandis que cela n'a pris que 4 ans pour la connexion Internet. Dans un monde où nous cherchons sans cesse l'accélération, on fait des to-do list pour nos vacances, on a peur de la non-productivité et on est notifié toutes les 3 minutes. On est également convaincu que le monde nous est disponible, qu'on peut utiliser ses ressources à la carte, ambiance enfant-roi. Nos relations elles-mêmes, par exemple d'amitié, deviennent des ressources disponibles à consommer quand on a un temps mort. L'accélération, c'est le mouvement continu de sociétés construites sur un équilibre dynamique qui ne doivent leur reproduction qu'à leur capacité à produire toujours plus et à innover, sous peine de s'abîmer dans des crises structurelles. Face à cette accélération, pour Rosa, il faudrait chercher la résonance. On est en résonance quand on s'adresse au monde et qu'il nous répond, qu'on cherche à retrouver de vraies relations, un dialogue, une écoute, mais aussi parfois des tensions, avec les autres, soi-même ou la nature. La résonance est un rapport cognitif, affectif et corporel au monde dans lequel le sujet, d'une part, est touché par un fragment de monde, et où, d'autre part, il répond au monde en agissant concrètement sur lui, éprouvant ainsi son efficacité, écrit Rosa. La résonance se caractérise donc par deux mouvements complémentaires. D'un côté, une ouverture au monde, une capacité à se voir affecté par lui, et d'un autre côté, le pouvoir d'y agir et de reconnaître notre activité en lui. Mais alors, comment on cherche la résonance dans les infos? Pour moi, ça confirme les pratiques que tu mets en place, Solène. Rosa insiste sur le fait que la résonance est indisponible, ce qui veut dire qu'il n'existe pas une seule voie pour y accéder ou pas de recette miracle. Elle est toujours temporaire, on ne peut pas être en résonance tout le temps. À chacun de construire son chemin pour résonner avec l'actualité, si c'est le moment. Bon, vous commencez à nous connaître, on a quand même voulu réfléchir à des pistes pour s'informer autrement.
Première question à se poser, c'est quel type d'infos est-ce que je cherche à avoir? Pourquoi? Pour me sentir connectée au monde, pour mieux comprendre un sujet? Je peux ensuite distinguer les informations sur l'actualité et les informations nécessaires pour apprendre, me former et imaginer une société qui fonctionne différemment. Louise, par exemple, nous partage sa façon à elle de s'informer.
Je te rejoins sur le côté indignation. Enfin, je crois que pour moi, c'est aussi le fait de continuer à s'indigner. En fait, c'est est-ce qu'on peut s'indigner sur tout? Et c'est ça aussi l'enjeu. C'est, je pense qu'il y a un moment, on a une saturation de sujets sur lesquels s'indigner. Et du coup, ça donne un sentiment d'impuissance énorme qui peut mener à une forme de paralysie et l'envie de couper. Le sentiment d'impuissance, il est tellement fort et en même temps, ça nourrit une envie de compréhension et une envie de nuances que je vais aller chercher. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas tendance à... Enfin, je pense que je segmente un peu les sujets sur lesquels je vais aller me renseigner, quoi. Parce que si je commence à m'indigner sur l'état de l'hôpital public, l'état du système scolaire en France, la solitude grimpante chez plein de gens, enfin, si on commence à s'attaquer à tous les sujets politiques, les choses qui montent, etc., j'ai l'impression que ça peut créer un peu l'inverse de ce que... de ce qu'on aurait envie que ça provoque. Parfois, moi, je reçois des infos comme ça parce que je suis sur les réseaux sociaux, il y a des infos qui viennent. Aussi parce que j'ai choisi de suivre certains types d'articles, de médias, etc., qui me donnent les infos. Mais parfois, ça arrive à des moments où j'ai pas... Enfin, je me dis, mais waouh, j'ai pas forcément envie de ce sujet-là. Et en même temps, j'ai bien conscience aussi que les réseaux sociaux vont renforcer le fait que je suis renseignée uniquement sur un certain prisme avec voilà, tous les algorithmes. Ils savent très bien ce que je regarde et savent. Et du coup, d'avoir des magazines comme celui que je vous ai montré qui traitent des sujets de fond et qui me permettent aussi de prendre du recul et de me dire, ok, en fait, avec quelle intention on va aller regarder ces images, avec quelle intention on va aller... s'informer. J'ai envie de sentir que je suis toujours indignée par des choses. J'ai pas envie de sentir que je deviens indifférente. Et parfois, ça m'inquiète. Je sens une forme, une pointe d'indifférence qui arrive sur certains sujets. Parce que on a été tellement habitués à... Et en fait, non, je ne veux jamais m'habituer à ça. Mais du coup, on est genre qu'il faut vraiment qu'il y ait des choses très fortes pour... de plus en plus s'indigner quelque part et ne pas se laisser happer par se dire que voilà, finalement c'est normal et qu'on ne peut rien faire.
Une fois qu'on a clarifié ce qu'on recherche, on se rappelle que savoir et action sont bien plus puissants que savoir tout court. On peut se renseigner via des formats plus longs. Par exemple, pour m'informer sur ce que je mange et donc comprendre le système alimentaire et mon rôle là-dedans, je vais parfois préférer regarder un documentaire de 52 minutes pour bien comprendre le sujet, plutôt que plein de petites vidéos sur Instagram qui survolent les choses. Moi, je me suis rendu compte que j'aimais particulièrement les articles longs, sur des formats plutôt bi-hebdo ou mensuels, par exemple de Society ou du Monde Diplo. Et j'aime bien ça, l'idée de privilégier des sources d'infos qui font que j'ai de la matière ensuite pour avoir envie d'en discuter avec les autres.
Au-delà des différentes formes de médias, se rappeler que tout ne se joue pas derrière un écran. Embrasser la diversité dans la réalité, donc pas via Internet. Se parler, échanger, discuter, s'écouter, s'entourer. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'être entourée de personnes qui m'apprennent au quotidien bien plus de choses que 20 minutes de France Inter chaque matin. Ils ne m'apprennent pas les dernières frasques politiques, mais ils m'apprennent sur des sujets en profondeur pour comprendre comment faire autrement.
Enfin, j'aimerais finir ce podcast sur un éloge de la douceur. Oui, la douceur. La douceur avec soi-même, mais aussi dans notre réception des différentes notifications et informations. Et puis la douceur dans notre tentative de compréhension du monde qui nous entoure, surtout quand il nous paraît ne plus avoir de sens. Pour ça, on vous laisse avec une lecture d'un extrait d'Éloge de la douceur d'Anne Dufour-Mantel, une philosophe et psychanalyste dont je vous recommande absolument tous les livres.
La douceur apparaît d'abord comme une défaillance. Elle déroge à toutes les règles du savoir-vivre social. Les êtres qui en font preuve sont parfois des résistants, mais ils ne portent pas le combat là où il a lieu habituellement. Ils sont ailleurs, incapables de trahir comme de se trahir. Leur puissance vient d'un agir qui est constamment une manière d'être au monde. et la passion qui en découle vient de l'émotion que seule la douceur peut libérer. Elle est un autre vivre. Bouleversante, pacificatrice, dangereuse, elle apparaît au bord, de l'autre côté, une fois franchi le seuil. Du vide, du plein, du ciel, de la terre, elle fait effraction entre les signes, entre la vie et la mort, entre l'origine et la fin. Elle est frontalière puisqu'elle offre elle-même un passage. Se diffusant, elle altère. Se prodiguant, elle métamorphose. Elle ouvre dans le temps une qualité de présence au monde sensible. La douceur invente un présent élargi.
Grand Écart, le podcast qui donne envie de parler des sujets qui fâchent.